Bonsoir à tous. Hélène vient d'évoquer les calomnies d'un éditorialiste d'Ouest-France à notre égard. En refusant de marcher dans l'Union nationale, on légitimerait les terroristes aux yeux de certains. De la vulgaire calomnie, mais de la calomnie à fort tirage, près de 500 000 exemplaires, pour nous punir de ne pas accepter de dire ce qu'ont dit tous les autres, à savoir que notre sécurité ne dépendrait finalement que du gouvernement, de sa police, de son armée, en un mot, de l'État et de l'ordre social qu'il représente. Eh bien nous disons que cet État ne nous protégera pas, car il n'est pas fait pour nous. Il ne représente pas les intérêts de notre classe sociale. Il est fait, en toute occasion, pour représenter les intérêts de la classe des capitalistes. Et c'est à leur secours qu'il vole, tantôt en envoyant sa police et sa justice contre les travailleurs en colère, tantôt en envoyant l'armée défendre les intérêts à l'étranger de grands industriels d'ici. Les bombardements de l'armée française en Syrie ne protégeront pas la population d'ici contre des actes de violence de terroristes. Elles en fourniront peut-être seulement de futurs prétextes. Les contrôles de police ne protégeront pas la population de terroristes organisés et déterminés. Mais ils rendront plus difficile au quotidien de tous ceux qui devront subir les contrôles au faciès à répétition dans leurs déplacements. Alors, si le gouvernement, le patronat sont soucieux de faire régner un climat de concorde nationale, c'est parce qu'ils y ont intérêt. Ils ont intérêt à ce que les mécontentements, les colères ne s'expriment plus. Ils ont intérêt à ce que les grèves, les manifestations soient ajournées. Et les voix discordantes ont été si rares qu'ils ont presque réussi à faire disparaître cette semaine le moindre signe de contestation sociale. Et pourtant, cette semaine, dans les allées du pouvoir et dans les conseils d'administration des grandes entreprises, on a organisé la poursuite de l'aggravation de nos conditions d'existence. On a voté la hausse des impôts locaux pour l'année prochaine. Des grands patrons du groupe Roche, Siemens ou Hewlett-Packard, réunis il y a 2 jours, ont interpellé le gouvernement. L'un d'entre eux explique, je le cite, que le cadre du CDI n'est plus compatible avec les besoins de notre économie. Et il poursuit en disant « On n'a pas la flexibilité qui existe ailleurs pour diminuer l'effectif en fonction de l'économie. » Alors, vous le voyez, il n'y a pas de concorde nationale ni de période de deuil qui vaille dans la poursuite de l'aggravation de l'exploitation. Et les travailleurs ont tout intérêt à le savoir pour ne pas taire leurs exigences. Donc, ce gouvernement n'est pas dans notre camp, et il n'y a pas une mesure sans qu'il nous en fasse la démonstration. Ces dernières semaines, ce sont les retraités modestes qui, par centaines, ont fait la queue dans les centres d'impôts, paniqués devant l'énormité de la somme à payer pour la première fois au titre des impôts locaux. Mais cela n'avait pas de quoi inquiéter ce gouvernement qui est tout à sa tâche, semaine après semaine, à étrangler les services publics, à détruire les unes après les autres les garanties collectives qu'avaient gagnées au fil du temps les travailleurs. Ce gouvernement n'hésite pas à continuer de vider les caisses de l'État en exonérant par milliards le grand patronat, tout comme il n'hésite pas à puiser dans les poches des classes populaires pour financer tout cela, y compris, malgré ses promesses et ses affirmations, en augmentant les impôts des plus démunis. Non, ce n'est pas le sort des centaines de milliers de retraités modestes qui a inquiété le gouvernement au point de le faire revenir en arrière en annonçant l'ajournement du paiement des impôts locaux pour certains retraités. Le seul souci du gouvernement et du Parti socialiste, c'est l'échéance électorale qui arrive et le risque pour les quelques centaines de notables conseillers et autres présidents de région de subir un sérieux revers. Le dernier accord sur les retraites complémentaires illustre parfaitement la façon dont le gouvernement règle les problèmes qui lui sont posés. Il a trouvé des dirigeants syndicaux pour contresigner un accord qui prévoit de faire travailler jusqu'à 63 ans l'ensemble des salariés ayant encore un emploi, sous peine de se voir retirer pendant 3 ans 10% de leur complémentaire, ce qui équivaut à 50 euros par mois pour les retraités modestes. Quant aux vieux travailleurs, invalides ou au chômage et en âge de basculer en retraite, eh bien pour eux, ce sera 10% au moins et d'office. Les caisses de retraite complémentaires se vident, oui, à cause du chômage massif, de la faiblesse du salaire des actifs et des multiples exonérations fiscales au bénéfice des patrons. Mais ce sont eux qui sont les seuls responsables de l'assèchement des caisses de retraite. Dans cet accord sur les retraites complémentaires, il était prévu une légère hausse de cotisation qui était censée être la petite contribution du patronat au financement des caisses déficitaires. Eh bien, le patronat, il a obtenu, lui, que cela soit intégralement compensé par des baisses de cotisation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voilà pour cet accord que certains nous présentent comme équitable. Hollande lui a parlé de liberté pour les salariés à propos du choix qu'on leur laisse de travailler 1 an de plus ou de voir amputer notablement leur petite retraite. Alors comment ne pas parler d'une politique de classe à propos de cette politique du gouvernement qui fait peser à 100% sur les salariés des réformes qui, ajoutées les unes aux autres, sont en train de liquider les retraites tandis que le patronat, entièrement responsable de la situation, est exonéré de tout. Et ce que j'illustre ici avec cette réforme des retraites complémentaires est appliqué sur tout et à tous les niveaux. Au nom de la lutte contre le chômage, les gouvernements successifs ont additionné les exonérations de charges payées par le grand patronat, à tel point qu'aujourd'hui un patron ne paye quasiment plus de cotisations pour un salaire au SMIC. Et il est patent que cette politique n'a absolument aucun résultat sur l'emploi. Rien que depuis l'élection de Hollande il y a un peu plus de 3 ans, le nombre de chômeurs dans le pays s'est accru de plus d'1 million de personnes. Et pendant le même temps, beaucoup de travailleurs du pays se sont appauvris, précarisés et ont vu leurs conditions de travail se dégrader. Donc, la seule chose qui s'est améliorée, c'est la marge des entreprises du pays, les profits des banques et la fortune des familles les plus riches. Pour financer tout cela, le gouvernement augmente les impôts et les taxes supportées par les classes populaires, comme il l'a fait avec la TVA. Mais il le fait aussi en faisant des économies sur les services publics à la population, y compris en supprimant des emplois. Et ces économies sur les services publics, il est capable de le faire avec le plus grand cynisme. Oui, cette politique entièrement dévouée au grand patronat nous coûte, à nous les travailleurs, cher, excessivement cher. Et elle résonne comme un écho de ce que nous vivons dans les entreprises. La pression du chômage pèse lourdement sur la conscience des travailleurs qui subissent, sans trouver la force de répondre aujourd'hui, une offensive violente du patronat visant à intensifier le travail. Et dans ce sale boulot, les patrons sont bien servis par le gouvernement qui légifère pour rendre légale la hausse du temps de travail, la baisse du salaire ou le mélange des deux. Dans bon nombre d'entreprises, dont celle dans laquelle je travaille au chantier naval de Saint-Nazaire, les salariés se voient imposer des accords de compétitivité avec baisse des jours de congé, allongement de la semaine, baisse du taux horaire. Et quand les travailleurs s'y opposent, par la lutte ou même simplement lors de référendums, comme récemment à l'usine Smart, eh bien les patrons vont chercher des dirigeants syndicaux complices pour signer des accords, ou bien ils vont noyer le vote de protestation des ouvriers par le vote des cadres qui restent aux ordres de leur direction. Les patrons, le gouvernement et les journalistes aiment à s'étaler sur les entreprises dites en difficulté, écrasées sous les charges, la concurrence étrangère, pour réclamer en chœur la fin du CDI anxiogène, comme le dit Gattaz. Mais quand les entreprises vont bien, quand elles croulent sous les commandes et qu'elles ont de quoi voir venir pour des années en production, qu'elles ont des réserves financières à ne plus savoir où les placer, que se passe-t-il pour les salariés? Eh bien, certainement pas des embauches à la hauteur de l'accroissement de la production, ou alors des embauches à statut précaire, avec des travailleurs qui sont jetés à la rue, une fois la durée maximum légale de leur contrat intérim ou à durée déterminée atteinte, pour être remplacés par un autre travailleur précaire. Dans deux grosses entreprises de la région que je connais bien, chez Airbus et au chantier naval, c'est cela qui se passe, malgré un carnet de commandes rempli pour plusieurs années. Pour autant, ce n'est pas la classe ouvrière qui s'est manifestée de la manière la plus visible contre la politique du gouvernement ou contre l'aggravation de l'exploitation et de la baisse du revenu du travail en général. Les avocats, les chauffeurs de taxi, les médecins ou les éleveurs sont les catégories sociales qui se sont fait entendre le plus ces derniers mois. S'ils se sont sentis autorisés et encouragés à protester, c'est à la fois parce que leur situation sociale se dégrade, mais aussi parce qu'ils se sentent confortés par l'opinion qui évolue d'une façon réactionnaire en faisant des artisans ou des petits patrons l'incarnation du pays qui travaille, légitime à réclamer son dû. Au contraire de la classe ouvrière et des salariés en général, qui sont dénigrés à longueur de temps par tout le restant de la société ou presque, pour leur temps de travail, leur congé, leur retraite, l'entretien de leur santé et de leurs enfants, leur syndicat, quand ils n'acceptent pas tout, sans rechigner. Ce mépris, c'est une expression politique. C'est celle de la bourgeoisie et de la grande bourgeoisie qui justifie sa toute-puissance et son droit à l'appropriation de la meilleure part des richesses par l'exploitation capitaliste. Ce mépris, en l'absence de contestation sociale, elle le fait partager et reprendre par de larges couches de la société, y compris chez les journalistes et chez les intellectuels aux ordres. Et ce mépris des plus riches, il se transforme en hargne quand les travailleurs se défendent. Et c'est ce que l'on a vu il y a quelques semaines à propos de l'explosion de colère des travailleurs d'Air France, menacés par un nouveau plan de suppression de près de 3000 emplois. Le patronat et le MEDEF ne sont pas montés en première ligne pour condamner l'explosion de colère des salariés lors d'un comité central d'entreprise d'où sont sortis deux directeurs avec les chemises déchirées. Ils ont confié cette tâche à ceux dont c'est le boulot au quotidien de faire accepter aux classes populaires le sort qui leur est fait. Et on a vu se succéder devant l'écran ou s'étaler dans la presse des dirigeants syndicaux condamnant sans réserve les travailleurs d'Air France en colère, leur reprochant des violences. On y a vu des dirigeants politiques de tous bords, les traitant de voyous pour Valls, les qualifiant de chienlits pour Sarkozy, ou les accusant de lynchage par la plus jeune des Le Pen, qui en appelait au CRS pour protéger les directeurs. Mais la violence, la vraie, celle qui bouleverse et parfois détruit la vie de famille entière, ces gens-là la cautionnent tous les jours. C'est la violence des actionnaires qui décident froidement, d'un coup de crayon, de supprimer des milliers d'emplois. C'est la violence qui s'exerce chaque jour sur des millions de travailleurs qui se battent contre un mur pour tenter de trouver un emploi et qui se débattent avec rien pour se loger, se nourrir et se soigner. C'est la violence du patron d'Air France, soutenu et relayé par les gouvernements, par le gouvernement, qui licencie 4 travailleurs pour faute lourde et qui entame les procédures pour en licencier un 5e qui a la faible protection d'un mandat syndical. Alors oui, les travailleurs d'Air France ont eu 1000 fois raison de ne pas se laisser faire et de faire entendre leur colère. Et nous sommes solidaires d'eux, sans aucune réserve, alors qu'ils s'élèvent contre un plan qui vise à supprimer 3000 emplois et à dégrader plus encore leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, nous sommes solidaires de tous ceux d'entre eux qui ne veulent pas se laisser faire taire au prétexte de l'état d'urgence et qui veulent manifester leur colère contre les licenciements disciplinaires et les poursuites judiciaires engagées contre certains d'entre eux. Nous convaincre qu'il faut être solidaire de ceux qui nous exploitent, c'est le leitmotiv de tout le personnel politique qui est aux affaires ou qui aspire à l'être. Le patronat réclame de pouvoir licencier plus facilement et le gouvernement lui donne raison avec la loi Macron en expliquant que cela lèvera les freins à l'embauche. Le patronat réclame des baisses de charges. Il y a peu, le dirigeant du MEDEF promettait même 1 million d'embauches en contrepartie. Eh bien, depuis, le gouvernement a fait le CICE qui offre en cadeau 20 milliards d'euros par an au patronat, qui, lui, ne promet plus rien. Et pendant ce temps, mois après mois, les chiffres du chômage augmentent. Car toute cette politique n'a qu'un seul but, protéger, coûte que coûte, les profits des capitalistes. Et de ce point de vue, cette politique, elle a du succès. Les plus gros actionnaires du pays viennent d'engranger 30 milliards de profits rien que ces 6 derniers mois. Et le patronat ne s'arrêtera pas là. Son prochain chantier, s'attaquer aux godes du travail. Et les rendez-vous sont déjà pris au lendemain de ces élections avec le gouvernement. Les appétits sont gros. Abandonner le CDI pour généraliser les CDD sans date de fin. Faciliter le recours au travail au forfait. On ne parle alors plus de durée maximum du temps de travail, mais de la durée minimum des temps de repos, soit 11 heures par jour et 35 heures une fois par semaine, ce qui laisse le loisir au patron d'exploiter notre travail pendant une durée pouvant aller jusqu'à 78 heures par semaine, ce qu'il ne se prive souvent pas déjà de faire avec les 1,5 million de cadres soumis à ce type d'horaire. Si le patronat tient tant à mettre en pièce le code du travail, ce n'est pas parce qu'il constitue un obstacle majeur à sa course effrénée à l'augmentation de l'exploitation du travail. Le carcan législatif dont il parle, cela fait un moment qu'il l'a mis de côté et s'en moque ouvertement. Je ne citerai qu'un exemple où l'inspection du travail de ce département, provoquée par des scandales à répétition et les accusations de militants syndicaux qui lui reprochaient de laisser faire, a fini par décider de frapper un grand coup. Elle a fermé toutes ses antennes du département, elle a mobilisé tous ses inspecteurs, ses contrôleurs et même tout son personnel administratif pour vérifier les contrats et les conditions de travail des centaines de salariés travaillant sur un navire en construction à Saint-Nazaire. Pour ce contrôle, l'inspection du travail a dressé des dizaines de procès-verbaux sur les délits considérés comme les plus graves dans le Code du travail. Délits de marchandage, entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail, dépassement de la durée du travail hebdomadaire, non-paiement des heures supplémentaires, salaire inférieur au SMIC, entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, etc. Ce contrôle date de 2006. Et la justice vient de proclamer, 9 ans après, en juillet de cette année, un non-lieu à l'encontre de la direction des chantiers. Alors les contraintes du code du travail dont aime à se plaindre le patronat, on voit de quelle façon il arrive à s'en accommoder. Non, ce que cherche à faire le patronat aujourd'hui, en s'en prenant au code du travail, c'est à légaliser ce qu'il met en pratique depuis quelque temps déjà. C'est ce qu'il fait appliquer de force dans ses usines. Et c'est ce dont nous, les travailleurs, nous devons avoir conscience. Bien plus efficacement que n'importe quel règlement ou que n'importe quelle loi, il n'y a que le rapport de force que nous serons capables d'engager avec le patronat qui peut nous permettre de sauver notre peau. Alors oui, ces attaques, elles sont rendues possibles parce que la classe ouvrière assommée, démoralisée, déboussolée, ne trouve pas la force de répondre collectivement et massivement à cette offensive du patronat et du gouvernement. Mais il n'y a qu'à voir comment, dans les usines, sur les chantiers, s'est exprimé le soutien à la colère des travailleurs d'Air France, pourtant dénigrés de toutes parts. Il n'y a qu'à voir avec quelle fierté a été perçue l'attitude d'un militant ouvrier qui a refusé devant les caméras de serrer la main à Hollande en lui disant ses 4 vérités pour comprendre que le moral des travailleurs n'est pas condamné à rester en berne. Et oui, pendant quelques jours, la combativité des travailleurs d'Air France ou le simple geste d'un militant qui montre fermement son opposition aux plus hauts responsables de l'État a fait relever la tête de bien des ouvriers dans les ateliers, sur les chantiers. Les témoignages n'ont pas manqué. Mais cela nous montre aussi l'étendue de la démission des dirigeants des grandes organisations ouvrières, qui devraient montrer et affirmer chaque jour avec autant de fermeté leur opposition à la guerre que mènent conjointement le patronat et le gouvernement contre les travailleurs. Et la preuve en est, ils pourraient avoir du succès avec une telle attitude. Au lieu de cela, les dirigeants de ces organisations dénoncent la combativité ouvrière quand elle fait parler d'elle, ou se taisent des jours durant pour ne pas avoir à se prononcer. La seule politique que défendent ces organisations, c'est de faire des propositions au patronat qui ne lui nuiraient pas en épargnant un peu le monde du travail. Cela n'a bien sûr aucun succès, ni aucun effet, à part celui de désarmer un peu plus le monde du travail. C'est dans ce climat et cette situation que se profile la prochaine échéance électorale au mois de décembre. Tous les partis font leur les règles qu'impose la bourgeoisie à toute la société. Tous ces partis nous expliqueront que la bonne gestion des affaires des capitalistes est le préalable indispensable à la moindre action publique. Tous ces partis nous laisseront seuls dans le face-à-face qui nous oppose à la férocité et à l'avidité des capitalistes. Ils nous parleront des difficultés du patronat. Eh bien nous, nous voulons défendre durant cette élection un programme qui s'adresse aux travailleurs. Nous proposons à l'électorat populaire de se prononcer sur une politique qui représente les intérêts de la classe ouvrière à court et à long terme. Cela signifie, dans les conditions actuelles de la crise, de mettre en avant un programme de lutte contre le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Nous disons que pour mettre fin au chômage, il faut interdire les licenciements et les suppressions d'emplois dans les entreprises et répartir le travail entre tous sans diminuer les salaires. Et à tous ceux qui nous disent que cela n'est pas possible, que les entreprises ne supporteraient pas de telles contraintes, eh bien nous, nous répondons que ce sont des mensonges et que de toute façon, nous demandons à voir. Nous, nous défendons dans notre programme l'idée que les travailleurs doivent accéder aux comptes de ces groupes capitalistes et nous sommes certains que nous y trouverons les moyens de financer la sauvegarde des conditions d'existence des classes populaires. Car si le grand patronat aime à dire qu'il ne gagne pas d'argent, que les salaires lui coûtent cher, que les charges lui coûtent cher, que ses fournisseurs lui coûtent cher et que la concurrence l'oblige à vendre sans marge, voire à perte, la mise à nu de ses comptes nous montrera l'étendue du mensonge. Elle nous montrera que la mise sous contrôle de ces capitalistes et de leurs comptes est le plus court chemin pour régler les plus urgents de nos problèmes. Et au passage, supprimer le secret bancaire et commercial, rendre public les comptes des grandes entreprises et de ceux qui les possèdent, nous permettra d'expliquer comment, parmi cette classe des capitalistes qui se disent « saignés à blanc », les 500 plus riches du pays ont pu voir leur fortune être multipliée par 5 en 20 ans. Alors, les travailleurs qui ont une conscience de classe et qui ne supportent plus d'entendre le patronat et ses serviteurs monopoliser la vie politique et nous distiller tous leurs mensonges, doivent prendre la parole dans ces élections. Et la meilleure façon de le faire clairement, c'est de voter pour les listes lutte ouvrière. Personne ne pourra se tromper sur le sens des votes pour lutte ouvrière. Ils seront interprétés comme l'affirmation d'un camp, celui des salariés, chômeurs, retraités, qui sont victimes de la crise et qui sont conscients d'être sacrifiés, mais qui ne l'acceptent pas. Ces votes montreront que des travailleurs sont conscients qu'il ne suffit pas de voter pour un programme défendant leurs intérêts pour l'obtenir, mais qu'il faudra l'arracher à la grande bourgeoisie et l'imposer par des luttes collectives puissantes. Ces votes montreront que des travailleurs sont conscients qu'on ne peut pas réformer le capitalisme, mais qu'il faut le renverser. Et de cela, je pense que Nathalie voudra vous en parler et je lui passe maintenant la parole.